femmes de caractère.
Rencontre avec des femmes qui agissent, écrivent, voyagent et qui pensent avec leur temps.
Françoise Ramel vous invite sur Radio Brodunette à des rencontres avec des femmes inspirantes.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Déjà le 16 mars, eh bien, nous fêtons bientôt ou déjà un an de confinement. Donc déjà, pensez à tous les artistes qui traversent cette période si difficile pour tout le monde, mais en particulier pour le spectacle vivant, mais aussi pour d'autres formes d'art. Et j'accueille aujourd'hui une artiste de chez nous, Charlotte Mével, bonjour.
Bonjour.
Alors Charlotte, tu es graphiste?
Oui, graphiste, illustratrice et maintenant dessinatrice de BD.
Ah, dessinatrice de BD, c'est aussi pour ça que je t'ai repérée, donc merci, on en parlera tout à l'heure. Tu habites à Saint-Élo?
Oui, depuis 10 ans.
Voilà, mais tu n'es pas du tout originaire de Bretagne, tu peux nous dire d'où tu viens?
Je suis de Nantes.
Alors tu es bretonne, alors...
Je suis pas née à Nantes, mais j'ai grandi là-bas.
Alors, avant de faire ta connaissance, puisque je te découvre aujourd'hui, tu me découvres aujourd'hui, c'est aussi le principe de l'émission Femmes de caractère. Comment tu es arrivée à Saint-Élo? Qu'est-ce qui t'a amenée là? Est-ce qu'il y a un lien ou pas avec ce que tu fais aujourd'hui? Ou tu as dû adapter tes choix professionnels à ce choix de vie?
C'est mon choix professionnel qui a fait que j'ai pu atterrir ici, puisque j'ai choisi d'être à mon compte. Et donc du coup, j'ai suivi quelqu'un en fait. C'est pour ça que je suis arrivée en plein centre Bretagne. Et comme voilà, en étant à mon compte, je peux travailler de n'importe où. Donc j'ai cette liberté de pouvoir bouger. Et on a habité. Donc moi, j'habite avec un intermittent technicien son. Et donc on habitait à Nantes et on avait envie de campagne, donc on a fait une petite transition en campagne nantaise et avant d'arriver en centre-Bretagne et on s'est beaucoup plu, donc voilà, on est tombé sous le charme des vieilles maisons en pierre.
Alors Saint-Élo, pour ceux qui ne connaissent pas le centre-Bretagne, hein, c'est un haut fief de l'histoire du lin, de la toile. Saint-Élo, avec ces architectures dont tu parles, hein, qui sont liées à la richesse qui a été développée là à un moment donné. Mais on n'est pas là pour parler patrimoine, juste pour nous donner envie d'aller découvrir ce cadre de vie que tu as choisi pour créer. Qu'est-ce que tu dirais de cette commune où tu vis, du climat, de l'ambiance qui te fait rester là, parce que tu pourrais repartir.
Ouais, mais on s'est fait adopter tout de suite par les locaux. Donc ça, c'était super agréable de découvrir aussi les gens. Et puis le patrimoine auquel on est assez attaché, nous, on rénove une maison de 1641, qui était sûrement une maison de tisserand. Et il y a aussi énormément de belles maisons de marchands de toile, donc, qui étaient un peu plus riches. Donc c'est les manoirs qu'on peut trouver pas mal dans ce coin-là, c'est très joli.
Alors, puisque tu nous dis que tu es illustratrice, graphiste, auteur de BD récemment, est-ce que... Il y a le regard que tu portes sur ton environnement se traduit nécessairement dans ton travail ou pas du tout?
Alors, il y a quand même un lien, je pense, même si je dessine pas forcément de paysages. Et pourtant, j'ai quand même des beaux paysages sous les yeux et ça m'inspire. En tout cas, ça m'aide à travailler, d'avoir une vue à 7 km devant moi de mon bureau. Mais ce qu'on va retrouver plus dans mes dessins ou ce qui m'inspire, c'est... peut-être justement des choses qu'on peut retrouver dans le patrimoine, c'est plus des motifs, des ornements, on peut retrouver aussi dans la nature, effectivement.
Tu es plus proche du détail? Est-ce que c'est ça que tu nous dis quelque part?
C'est-à-dire
que tu as besoin du panorama pour te sentir bien et libre? J'essaie de retraduire un peu ou de...
C'est un peu ça,
ou je fantasme,
besoin,
hein, peut-être,
non,
voilà.
J'ai besoin d'avoir mon espace qui est très grand, là, donc
voilà. Et dans cet espace-là, du coup, t'es plus disponible pour aller chercher ce que tu aimes plus ou ce qui te parle plus?
Oui, je m'attache aux petits motifs qui font un peu la différence ou qui sont, que moi, je trouve représentatifs d'une époque, d'un lieu, enfin voilà.
Et est-ce que, je pose des questions très naïves parce que je suis passionnée par ton domaine que je connais mal, est-ce que quand on crée comme ça des dessins, des visuels, est-ce que ça raconte une histoire?
Souvent, en fait, parfois sans qu'on s'en rende compte, en fait, mais ça raconte toujours quelque chose, que ce soit un dessin qu'on fait spontanément quand on est en train de téléphoner ou un dessin qu'on fait consciemment. Il y a toujours, moi en tout cas, ça raconte toujours une part de moi. Donc C'est pour ça aussi que là, sur ma première BD, là, je suis partie sur, de mon histoire personnelle, puisqu'en fait, je suis partie de ce que je connaissais et c'était plus facile pour moi de démarrer comme ça.
Alors, puisque Femme de caractère, c'est un peu rentrer dans l'intime de chaque invité chaque semaine. Cette histoire personnelle, elle se construit comment? Comment tu la regardes aujourd'hui? Quels sont les points saillants de cette histoire et des choix que tu as fait pour devenir la femme que tu es et l'artiste aujourd'hui que tu es?
C'est marrant parce que j'ai sûrement fait des choix pour en arriver là, mais j'ai l'impression que c'était très logique en fait. En regardant en arrière, je sais que j'aurais... Enfin, peut-être ça aurait pas été à cet endroit et maintenant, mais c'était un peu tout tracé que j'en arrive à faire ça, à habiter dans un endroit comme ça.
Et dessiner. Ouais, ça ne te fatigue jamais?
Non, après, je dessine pas énormément. Je fais beaucoup de choses qui ont toujours un lien avec le dessin. Mais de dessiner sur papier, en fait, ça fait pas si longtemps que ça que je m'y suis remise. Et c'est pendant la grossesse de mon premier enfant, en fait, que j'avais envie depuis un moment. Et voilà, ça, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de me remettre à dessiner. Mais sinon, je dessine peu. Je travaille beaucoup sur ordinateur. Je rénove ma maison, donc je fais aussi des plans, je taille du granit pour faire de la maçonnerie en pierre, comme c'était un peu à l'époque. Enfin, je fais des choses qui sont quand même un petit peu en lien avec le dessin toujours, mais c'est dans différents domaines.
On va peut-être écouter un premier texte. On commence par le texte exhumé.
Ok. Allez. En fait, oui, c'est un texte. J'avais plein de carnets quand je faisais mes études. D'art appliqué, on était tout le temps avec des carnets à écrire beaucoup et à faire des croquis. Et donc là, j'ai ressorti un vieux carnet.
Donc je vous préviens, Charlotte Mével m'a dit, moi, je ne sais pas ce que c'est que ce texte, je ne sais pas ce que ça raconte, mais on y va. C'est ça ?
C'est un peu ça, ça date d'il y a plus de 20 ans. C'est dans des carnets collectifs où, pendant les soirées entre copains, on écrivait tous, on dessinait tous ensemble. Donc celui-là, je sais qu'il est de moi, mais je ne sais pas exactement.
Alors, on t'écoute, Charlotte.
Alors... Il aura mal et ses paupières descendront sur ses yeux secs et durcis par cette lueur disparate qui s'échappe discrètement par les trous de la passoire.
Hey. Voilà, effectivement.
Je vous avais prévenu.
Alors, donc, on n'a pas le temps de faire la mise, mais en tout cas, le côté de ce qui s'échappe par la passoire, je te vois justement te dire, voilà, et si j'allais regarder ailleurs, en dehors des cadres, en dehors des cases, et laisser libre cours à mon imaginaire, est-ce que ça c'est quelque chose qui t'anime encore aujourd'hui ?
Oui, en fait, je me suis arrêtée sur la passoire parce que c'est, y a une expression par rapport au sujet de ma BD, c'est d'avoir trop regardé le soleil à travers la passoire.
J'ai
trouvé assez joli et voilà, c'était un petit lien.
Tout à
même
fait.
Si ça parle pas du tout de ça.
Alors, écoute, c'est le moment avant d'écouter le morceau de musique de donner le nom de ta BD, le titre de ta BD.
Donc c'est La Rousseur pointée du doigt.
Allez, on patiente. Avec un morceau de musique. Alors, tu nous as choisi de nous faire découvrir Fiona Apple, Not About Love. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi ou...
En fait, c'est une chanteuse, une pianiste que j'écoute depuis très longtemps, depuis que je suis ado, pré-ado, et qui est très libre, en fait. Elle est dans son univers, elle fait ce qu'elle veut, elle n'a aucune limite. J'ai choisi ce morceau-là, mais enfin voilà, parce que c'était difficile de choisir un morceau en particulier, mais c'est quelqu'un que j'écoute depuis longtemps et que j'écoute toujours.
Allez, on écoute Fiona Apple, Not About Love. À tout de suite. You're the cause, already are, drawing deep breaths past my door. And last night's phrases, sick with lack of basis, are still writhing on my floor. Doesn't seem fair that your wicked words are working, holding me down. It doesn't seem right to take information, given at close range, for the gag and the bind and the ammunition. Conversation, once colored by esteem, became dialogue as a diagram of a play for blood. Took a vacation, my palate got clean. Now I can taste your agenda while you're spitting your cut. And it doesn't make sense I should fall for the kingcraft of a meritless crown. It doesn't seem right.
taking information, giving that close range for the gag and the bind and the ammunition. It's not about love, 'cause I am not in love. In fact, I can't stop falling off. Not about love, I am not in love. In fact, I can't stop falling. That's what he said when I was sitting up straight. Changed the name of the game 'cause he lost it. He knew he was wrong, but he knew it too late. But I'm not being fair 'cause I chose to listen to that filthy mouth. But I'd like to choose right. Take all the things that I said that he stole, put him in a sack, swing him over my shoulder, turn on my heels, step out of his sight, try to live in a lovely life.
Femme de caractère, Françoise Ramel.
Charlotte Mével, tu es en tournée, on va dire ça comme ça, hein. Tout est arrêté, ou presque, mais heureusement les librairies ont pu rouvrir récemment, et ça tombe bien puisque tu as sorti ta première bande dessinée. Donc tu nous as donné le titre tout à l'heure, La Rousseur.
Pointé du doigt.
Et puis, tu nous as parlé d'une histoire de passoire. Est-ce qu'on t'a déjà dit, toi, dis donc, tu as trop regardé le soleil à travers une passoire?
Non, on ne me l'a jamais dit, mais je trouvais qu'elle était jolie, cette expression, même si ce n'est pas hyper sympa. Ça concerne les gens qui ont plein de taches de rousseur. C'est ce qu'on pouvait leur dire de manière un peu péjorative concernant...
Alors, est-ce que l'histoire de cette BD, que je n'ai pas lue, vient d'un souci de la discrimination? Est-ce que ça part de l'envie de revenir à un jardin secret, à la fois dans le geste créatif, hein? Tu me disais que souvent, tu croquais des situations, des personnages, et tu passais jamais très loin de la BD. Voilà, j'aimerais que qu'on arrive à situer un peu quand ça arrive dans ta vie, comment et pourquoi maintenant, quoi.
En fait, c'est arrivé, donc j'ai recommencé à dessiner avec la naissance de mon fils, un petit peu avant. Et la forme BD s'est imposée un peu d'elle-même, parce que je dessinais des petites scénettes, voilà, beaucoup de personnages. Et en fait, je me suis mis très vite à dessiner ce qui nous arrivait, notre quotidien, qui concernait beaucoup le bébé, qui était roux, et dont tout le monde nous parlait. Tout le monde n'arrêtait pas de nous parler de ses cheveux. Alors moi, je suis rousse aussi, mais beaucoup moins maintenant que quand j'étais petite. Et en fait, puis moi, je ne l'ai pas très mal vécu. J'ai entendu des choses désagréables, mais voilà, j'avais un peu oublié mes cheveux roux. Et d'entendre ça en tant que maman, du coup, de me projeter par rapport à un enfant, c'était différent que d'avoir entendu, moi, des choses négatives enfant, quoi. Donc j'ai dessiné là-dessus. Et puis, la BD, j'ai accroché assez vite. En fait, je me suis fait plaisir en faisant ça. Et il y a une auteure de BD qui s'appelle Pénélope Bagieux que j'ai entendu parler de son travail. Et moi qui, voilà, c'était pas mon métier, j'étais graphiste, donc je me sentais pas, c'était un peu pour me faire plaisir que je faisais ça, mais j'avais pas du tout l'idée d'en faire mon travail, quoi. Et en fait, elle parlait très bien de la légitimité de créer ou de faire, de publier quelque chose, et en disant que du moment que ça nous fait plaisir, en fait, l'essentiel, c'est quand même de s'éclater quand on produit quelque chose. Et en fait, juste ça, ça suffit à justifier le travail.
Est-ce que tu es en train de dire, quelque part, à demi-mot ou à mot couvert, entre les lignes, que même quand on est artiste, même quand on crée tous les jours, il y a une forme d'autocensure et qu'on attend à un moment donné l'autorisation qu'on s'accorde à soi-même pour dire, bah oui, je vais le faire.
Oui, évidemment. Et puis en plus, c'est assez personnel, le dessin. Donc en fait, on peut apprécier de le faire pour soi-même, mais de là à se sentir légitime de le montrer et de le partager, c'est autre chose. Donc, et ça, ça m'a un peu débloqué ce qu'elle a dit, cette autrice. Et je me suis dit, mais en fait, moi, ça me fait hyper plaisir de faire ça. Donc,
pourquoi me priver de ce plaisir, en fait ?
Je vais le faire, là, j'ai le temps, j'ai le sujet, enfin, tout est évident. Et donc, j'ai envoyé un petit dossier à un concours belge de la Fondation Raymond Leblanc, qui récompense les jeunes auteurs qui n'ont pas été publiés encore. Et j'ai eu un prix d'encouragement et j'ai pu rencontrer des professionnels, donc éditeurs, scénaristes, etc., qui m'ont vraiment incité à continuer à travailler sur ce projet. Et pour eux, c'était éditable. Donc, en fait, il fallait que je continue ce travail-là.
C'est important, l'accompagnement, hein, effectivement, pour cette légitimité. Et puis aussi les outils, parce que, comme tu dis, c'est pas ton métier. Et sans doute que tu n'aurais pas produit le même travail si tu n'avais pas eu ces conseils ou ces recommandations.
Oui, c'est évident. J'aurais peut-être abouti quelque chose dans mon coin que j'aurais auto-édité. Et ça aurait été complètement différent parce que, en fait, c'est quand même un travail très solitaire déjà. Donc si, en plus, on n'a pas l'accompagnement et le recul que peuvent avoir des professionnels, ça donne quelque chose de différent et de moins abouti.
Alors, est-ce que tu as le sentiment que ce travail est abouti ?
Oui. Évidemment, il y a des petits trucs que... Il y a toujours des petits trucs qu'on aurait aimé mieux faire ou modifier, mais à un moment donné, il faut savoir arrêter. Enfin voilà, j'ai travaillé dans un certain contexte, à un certain moment, avec certaines capacités, et le résultat me plaît.
Et tu as envie de le défendre.
Oui, et puis il a été très bien accompagné aussi, donc...
Et il est très bien accueilli, parce que ce soit dans la presse, dans les dédicaces, t'as des retours hyper positifs. On sent qu'il y avait, une place pour ce livre, pour cet ouvrage.
Oui, c'est marrant, parce que c'est un sujet hyper pointu, donc je ne m'attendais pas à ce que ça parle à autant de gens. Donc les retours sont chouettes, parce qu'il n'y a vraiment pas que les personnes rousses qui sont sensibles au sujet.
Pour toi, c'est une surprise ?
C'est ce que j'espérais, mais je ne pensais pas que tout le monde arriverait à se projeter, en fait, au-delà de la spécificité de la rousseur. C'est vrai que ça parle de discrimination, d'altérité, de la différence en général. Donc, si ça a été perçu, et plutôt de manière légère, donc c'est super, quoi.
Charlotte Mével, tu nous disais, cette bande dessinée, elle est partie de ta propre histoire, hein, alors, et puis de cette surprise, finalement, en tant que jeune maman, de voir comment l'entourage peut focaliser sur la couleur des cheveux de ton bébé. Et puis, ça devient une histoire, ça devient une bande dessinée qui est accueillie par un public qui en fait autre chose, qui se raconte une autre histoire avec ça. Tu nous parlais d'altérité, voilà, de différence aussi. Voilà, comment, à un moment donné, on se détache de l'objet qu'on a soi-même créé avec ses propres ressources, et comment on y laisse aussi de soi ?
Ça fait toujours un peu partie de moi, puisque c'est mon histoire, et ça parle de mes enfants, et les gens qui nous connaissent nous reconnaissent dans la BD, et ça, c'est marrant, parce qu'ils accueillent ça avec un peu d'émotion, c'est rigolo. Mais après, effectivement, en fait, ça devient ce que le lecteur en fait, et il y a beaucoup de personnes rousses qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien, que ça, pour eux, c'était vraiment positif. Ça, je ne m'attendais pas à ce retour-là. Je m'attendais à ce qu'ils apprennent des choses, parce que moi, j'ai fait des recherches assez poussées pour essayer de détricoter ces préjugés qu'on connaît tous, mais qu'on ne sait pas d'où ça vient, en fait. pourquoi les roues sont des sorcières, pourquoi les roues sentent mauvais, enfin, des choses qu'on peut entendre quand on est petit et quand on est grand aussi.
Et puis ça vient de très loin.
Ouais, et ça vient de très loin, ça vient de plusieurs cultures. Donc, en fait, moi j'avais besoin de comprendre pour peut-être donner un peu plus d'armes que moi j'en avais à mes enfants et qu'ils aient un peu plus de répartie, ou en tout cas qu'ils sachent de quoi ça parle et qu'ils puissent avoir les bases en fait pour savoir, pour comprendre, parce que quand on est gamin et qu'on se balance des trucs comme ça, poils de carotte à la figure, ou et ben en fait les insultes, enfin la personne qui balance ça, elle sait pas non plus de quoi ça parle, et donc je pense que c'est facile de stopper quand on met le doigt là-dessus, et que celui qui se fait insulter, s'il sait se réapproprier ces termes-là, parce que lui il sait d'où ça vient, il sait pourquoi, et ben en fait voilà, ça peut stopper aussi le débat tout de suite, quoi.
Alors, est-ce que je nous rends un peu curieuse, là, évidemment, on va lire ton ouvrage, mais est-ce que tu peux nous partager, dans les recherches que tu as faites, des éléments qui t'ont vraiment aidé à construire ton récit, ou qui ont apporté une lumière différente sur ton propre regard ?
En fait, c'est vraiment la diversité des domaines où les préjugés naissaient qui m'ont un peu étonnée. Jusqu'au 19e siècle, c'était une maladie, en fait. C'était considéré comme une maladie, quand même, d'être roux, d'avoir des taches de rousseur. Un métier qui était très fréquent pour les femmes à cette époque-là, c'était nourrice, allaitante. Les femmes rousses n'avaient pas le droit de le faire. Leur lait était impropre à la consommation.
Et ça, tu ne le savais pas. Tu as découvert ça.
Non, ça, je ne savais pas du tout.
Du coup, tu as fait comment dans tes recherches? C'est sur Internet? Tu es allée dans des bibliothèques? Comment tu as fait? Est-ce que tu habites à Saint-Élo?
Oui, beaucoup sur Internet. J'ai lu... Il y a quand même pas mal d'auteurs qui se sont intéressés au sujet. Donc, j'ai lu des ouvrages sur la couleur, sur la rousseur, sur... Judas, qui était cette couleur un peu qui le caractérise, alors qu'en fait, finalement, dans les représentations qui existent, non, il n'est pas plus roux que Jésus, ou qu'il est même plus souvent
Donc on
bras.
Peut affubler aussi quelqu'un à qui on attribue un mauvais comportement, la trahison, etc. Une rousseur qui n'est pas forcément réelle, qui n'est pas forcément actée, mais voilà, c'est plus facile, ouais. de un peu comme on fluote.
Dans la littérature aussi, ça, j'avais jamais remarqué, mais en fait, c'est vrai que c'est déjà, ça donne du caractère, mais souvent, les pauvres personnages roux, ouais, c'est ça, c'est des voleurs, des fourbes, des traîtres. Pour les femmes, ça va être plutôt des prostituées, des femmes de mauvaise vie, des sorcières.
Parce que tu parles de la rencontre qui peut être un peu violente au niveau des enfants, mais quand on regarde les images qu'on reçoit par les médias, par la télévision, on est encore habité par ces choses-là et on n'a pas forcément le recul. C'est anodin. Et ce que tu nous dis à travers ton ouvrage, c'est tout sauf anodin, quoi.
Ouais,
la façon dont je regarde un bébé, notamment, le fait de focaliser sur la couleur de ses cheveux alors qu'il serait blond, châtain, on dirait qu'il a de beaux cheveux.
Oui, c'est pas un sujet, en fait.
C'est un non-sujet. Ouais. Et donc, c'est tout sauf anodin.
Voilà. Et en plus, il y a vraiment une ambivalence qui m'a retenu mon attention, c'est que la rousseur est surreprésentée. Que ce soit, déjà en bande dessinée, en fait, les héros et héroïnes rousses sont hyper fréquents. Et à la télé, dans la publicité, dans le cinéma, les personnages rousses sont aussi très récurrents. Dans la peinture, c'est pareil. Alors, il y a l'aspect de la couleur, quoi, qui se démarque, qui dénote, qui est original, donc qui donne un petit truc en plus aux personnages. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la symbolique qui peut être derrière, qu'on va attribuer à quelqu'un qui a les cheveux orange, rouge. Enfin, voilà. Et il y a toujours ce truc de... Enfin, il y a un côté... Ouais, c'est entre fascinant, attirant et repoussant. Enfin, voilà. On ne sait pas trop, mais c'est toujours entre les deux.
Et du coup, pour une artiste, c'est un sujet en or.
Oui. Et puis, visuellement, c'est aussi... Enfin, graphiquement, en fait, c'est hyper intéressant d'être dans cette dualité. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur des passages qui sont très, très colorés, très vifs, et puis des pages qui vont être beaucoup plus sobres, dans les gris. Enfin, voilà, c'est intéressant à la fois dans la narration et dans dans le dessin.
Et comment on fait avec le choix? Parce que moi, j'ai l'impression qu'une BD, c'est à chaque fois une histoire dans chaque vignette. Enfin, alors, il y a le métier, bien sûr. Hein. Il y a le métier qui est là. Tu es graphiste, tu es habitué à faire des choix très,
oui,
très souvent.
Oui, mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais un découpage comme ça en cases. Et puis que je travaille sur un format livre, donc avec plusieurs pages. D'habitude, je fais une illustration sur,
voilà,
un sujet qu'on m'impose.
Il y a le format, voilà, livre et puis il y a le format libre. Parce que là, c'est toi qui te passes commande.
Ouais, alors je sais pas. Enfin, moi, c'est vrai que comme j'étais un peu novice là-dedans, je me suis fixé quelques contraintes. Donc, j'ai pris une base donc avec 6 cases qui revient souvent, mais en fait, qui est tout le temps. Bon, ça va être un peu plus, un peu moins. Ça va être selon les dessins. Et des pleines pages où là, il n'y a pas de cases parce qu'il faut que ça déborde. Il faut que, voilà, c'est libre, justement.
D'accord. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la trame. Ça, voilà. Ouais. Il y a une trame graphique qui est dire, voilà, de toute façon, je bosse sur cette contrainte-là que je m'impose. Et je vois dedans comment je crée de la liberté avec tout ça, quoi.
Oui.
Parce ça aide de poser une contrainte, ça aide à être libre.
Après, il ne faut pas que ce soit non plus trop disparate parce que sinon, c'est vrai qu'on peut perdre le lecteur. Déjà, moi, l'écriture, c'est pareil. C'était un peu une première, donc... il fallait que la narration ait quand même un fil conducteur. Et si en plus les cases changent de forme à chaque page, ça le fait pas du tout. Donc voilà, c'était pour avoir un peu de cohérence. Mais après, rien n'empêche de jouer avec ces premières contraintes et de faire en fonction du dessin de chaque case.
Ouais. Et puis après, il y a, tu parles de cohérence, mais une BD, c'est aussi une signature, hein, dans le trait. Dans ce que dégage l'ensemble de l'album, dans la douceur ou dans la brutalité, dans les contrastes, ou, tu vois, tout ça, c'est... Et tu as trouvé ta patte assez facilement ? Ou tu es passé par des brouillons et tu dis non, c'est pas ça, là, c'est pas moi, c'est pas comme ça que je veux, ou assez naturellement, tu as trouvé l'ambiance, je dirais, l'ambiance générale de l'album ?
Oui, parce que... Bah déjà au niveau de la couleur, voilà, bah c'était, oui, assez évident, même si je voulais pas que tout soit uniforme. Donc en fait, c'est des camailleux, il y a énormément de couleurs, mais c'est quand même tout tourne autour du roux, hein. Et je voulais que ce soit joyeux, je voulais pas du tout que ce soit terne, donc fallait quand même j'ai vraiment insisté sur cette variété. Et le dessin, en fait, pour moi, je peux pas dessiner autrement. Ça s'impose un peu tout seul.
Du peu que j'ai vu, je trouve ça quand même très féminin. Mais peut-être que je m'embarque dans quelque chose qui n'est pas du tout le sujet, mais c'est un peu femme de caractère aussi, mais on en reparlera peut-être en troisième partie. Est-ce que tu veux nous lire, juste pour nous mettre en appétit, le texte que tu as choisi, qui est extrait de cette BD, La rousseur pointée du doigt, signée Charlotte Mével.
C'est la fin de la BD. Ma rousseur saute peut-être aux yeux des autres, mais elle n'appartient qu'à moi. C'est mon identité, mon essence. Elle est flagrante, on la voit de l'extérieur, mais ça ne regarde que moi. C'est mon intimité, elle colore ma personnalité.
Merci Charlotte. Et sans transition, le morceau de musique que tu as choisi pour clore cette deuxième partie, The Andrews Sisters, Rum and Coca-Cola. Oh là, ça va swinguer. À tout de suite. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. It's a fact. In old Trinidad,
Sean is mighty queer, like the Yankee girl, the native swoon. When she heard her bingle croon, drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with Native Peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
It's a fact, man, it's a fact.
Rum and Coca-Cola.
Femme de caractère, Françoise Ramel.
Et Charlotte Mével, tu as la chance aujourd'hui d'avoir un ouvrage entre les mains que tu peux présenter en librairie, que tu peux présenter en festival, qui te permet de rencontrer un public. Ce public partage les émotions et ses réactions avec toi. Du coup, bon, ça c'est fait quoi. Ça c'est fait. tu t'es éclaté, t'es allé au bout. J'ai envie de savoir, voilà, est-ce que ça libère quelque chose en toi d'avoir ça de nouveau dans ta vie, d'avoir réussi à aller au bout d'une envie qui jusque-là ne trouvait pas à se concrétiser.
Bah oui, parce que du coup, je me suis quand même rendu compte que récemment, que j'avais toujours un peu tourné autour du pot et que la BD, c'était jamais très loin, mais je suis toujours passée à côté. Donc je suis contente d'avoir enfin commencé à faire ça. Et effectivement, d'avoir abouti à un premier projet et à un projet aussi long, en fait, parce que d'habitude, en graphisme, c'est des projets qui, au pire, s'étalent sur quelques mois. Et là, c'était plutôt en années, donc c'est très agréable de terminer un projet aussi long. Et en fait, j'espère vite entamer un deuxième.
Ah ouais,
bah ouais.
T'as vraiment envie, là. T'es sur la lancée. T'as l'impression d'être comme ça propulsée, là, vers une envie créatrice.
En fait, je découvre en fait à peine toutes les possibilités qu'il y a dans la bande dessinée. Et puis, j'ai des idées qui se sont installées dans ma tête assez vite pendant que j'étais en train de faire celle-ci. Et qui sont toujours là, donc je me dis que j'ai eu différentes idées qui sont parties, mais j'en ai qui sont bien accrochées, donc je me dis que c'est que ça doit valoir le coup et il faut essayer quoi.
Alors tu me disais en off que tu peux te permettre de continuer à rêver et à créer autour de la bande dessinée parce que ton métier de graphiste. Donc comment on équilibre ça? Comment on est serein avec cette question de la sécurité financière quand on est artiste, quand il n'y a plus de perspective du fait d'un contexte sanitaire catastrophique, etc.
Ça, je crois que c'est assez personnel. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème de ne pas pouvoir voir venir ou me projeter à plus de 2 mois dans l'avenir financièrement. Donc, et je m'en suis toujours sortie comme ça. Donc même si c'est irrégulier, j'ai l'habitude et j'aime bien quand ça fonctionne comme ça. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir mon boulot de graphiste qui s'adapte beaucoup en fait, que je peux modeler comme je veux. Bon, après, en ce moment, graphiste événementiel, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'événements. Mais
oui, faire des affiches de festons, parce qu'il n'y a pas de festons. Hein.
Voilà, c'est un peu ça. Mais ça me permet effectivement de prendre des risques à côté et de tenter des projets plus perso.
Est-ce que l'âge, tu as 38 ans, hein, Charlotte, on peut le dire, est-ce que l'âge joue à un moment donné dans la prise de décision en se disant, oh là là, quand même, c'est maintenant qu'il faudrait le faire parce que sinon, je risque de ne jamais le faire?
Non, je pense que c'est pas une histoire d'âge, c'est plus une histoire de moment, en fait. Enfin, après, évidemment, avec l'expérience, moi, j'ai quand même orienté de plus en plus mon travail en allant de plus en plus vers l'illustration, vers le culturel. Ça se joue sur les années, mais après, le fait que ça soit arrivé maintenant, le projet de bande dessinée, c'est un peu... C'est le hasard, c'est comme ça. Ça s'est bien passé de manière fluide à ce moment-là, mais ça pourrait être aussi dans 20 ans. Enfin, voilà, je pense que
voilà,
c'est pas...
Sauf que ça va nous permettre d'avoir peut-être plusieurs albums dans les 20 prochaines années. Donc nous, on est très contents que ce soit maintenant et pas plus tard. Et c'est peut-être le message à passer aussi aux autres femmes, qu'elles soient artistes ou non, qui inconsciemment se censurent ou me disent souvent, pour femmes de caractère, « Mais tu sais, j'écris, mais moi, mais je publie pas. Et alors ?» Je suis pas éditée. Et alors ? Et justement, l'édition, tu as appris des choses, du coup, là, sur l'édition ?
Oui, bah c'est ça, j'ai adoré me faire accompagner par une éditrice.
Une femme ?
Oui.
Hey, hasard ou ?
Eh ben oui, hasard. C'est... Mon projet est tombé sur son bureau et il se trouve que c'était le bon bureau parce qu'elle a accroché tout de suite.
Alors, on peut savoir son nom ?
Alors, elle s'appelle Alix de Sanderval. En plus,
Alix.
Un nom super.
Alors, Alix,
super
on te dit bonjour et surtout, on te dit tu viens dans Femmes de caractère. Donc, ça, c'est intéressant, ce compagnonnage entre femmes aussi.
Ouais, parce que en fait, à la fois c'est une relation de très de confiance en fait et de bienveillance et en même temps, en fait, elle m'a apporté tout le recul et le professionnalisme sur des aspects que moi je maîtrise pas du tout sur l'aspect justement édition, distribution.
Bien sûr.
Et voilà, en fait, elle a le recul. Moi, quand j'étais bloquée, enfouie dans toute cette rousseur et que je voyais plus rien et que c'était pas très clair, et ben en fait, l'éditrice, elle est là pour dire, en fait, non, il suffit juste de changer cette case-là ou de modifier ça. Et là, c'est pertinent et voilà. Et c'est indispensable. Je pense que le travail est beaucoup plus abouti de cette collaboration que si j'avais travaillé toute seule.
Elle est où, Alix, elle ?
Alors, elle travaille chez Delcourt, donc c'est à Paris. Donc, on s'est rencontrés peu de fois, étant donné le contexte, mais on échange très, très souvent par mail, par téléphone. Voilà.
Bon, c'est enthousiasmant, parce que c'est aussi, c'est des portes qui s'ouvrent. Et puis, les références aussi, parce que du coup, toi, tu vas devenir, petit à petit, c'est pas le but, évidemment, mais ton travail, tes choix artistiques, ta signature, va devenir une référence dans un ensemble d'autres références. Alors, tu vois où je veux en venir ? Dans le dessin, il y a quand même une femme aussi qui t'a donné envie un jour de dessiner ou comment ça s'est passé ?
Alors,
de qui tu voulais nous parler ?
Ça s'est pas forcément passé comme ça, mais je voulais parler quand même de Claire Bretéché, qui est malheureusement décédée l'année dernière et qui était un peu la pionnière qui était en France, qui était, en fait, on voit bien sur les photos, elle est toute seule avec une bande de mecs. C'est la seule dessinatrice qui s'est fait connaître. Parce que c'était sûrement pas la seule, mais les pauvres autres, elles devaient être un petit peu...
Dans l'ombre de ces messieurs.
Et elle a réussi, elle vivait très bien de la BD, et voilà. Et ces dessins, j'ai connu ça quand j'étais, je sais pas, au collège. Et en fait, ça m'a accompagnée toute mon adolescence. Avec mes copines, on parlait le Bretéché d'Agrippine, qui avait des super termes. Pour un super argot d'ado. Et en fait, du coup, je me suis replongée dedans récemment, parce que suite à son décès, donc comme on a un peu parlé d'elle. Et ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est son côté un peu blasé. Je m'en fous de tout. Et à la fois, c'est hyper fin et hyper pertinent. Elle a un aspect quand même très sociologue dans son travail, quoi. Elle étudie les gens l'air de rien et elle les fait dire pile le truc qui fait que... Enfin voilà, on voit bien les scènes en fait, qui arrivent à tout le monde et qui représentent super bien une époque, un moment et des problématiques contemporaines, quoi.
Est-ce que, comme un peu la rousseur, c'est remettre les pendules à l'heure, mais de manière tout à fait généreuse et bienveillante, hein, c'est ce qu'on comprend à travers ce que tu nous dis aujourd'hui dans Femmes de caractère. Est-ce que cette place de Claire Bretéché, justement, dans le paysage, c'est à un moment donné réparer une injustice, de dire, voilà, nous, femmes dessinatrices, illustratrices, nous voulons aussi exister dans le paysage culturel, mais pas dans la revendication. Juste, laissez-nous être. Éditez-nous, lisez-nous.
C'est ça que je trouve super chez Claire Bretéché, c'est que du coup, elle a donné des personnages de référence auxquels on peut s'identifier, qui sont féminins. Et elle l'a fait sans être dans cette démarche féministe. En fait, elle l'a fait juste parce que c'était son boulot, elle avait envie de faire ça. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, elle ne s'est pas positionnée pour revendiquer quelque chose, c'est, elle a juste fait de la BD parce que c'est ça qu'elle voulait faire. Et en fait, c'est plus ça qui est important. Et du coup, tant mieux si ça apporte en plus des personnages féminins pour rééquilibrer un petit peu la balance, parce que c'est clair que les filles sont habituées à s'identifier à Tintin et à Lucky Luke, mais les garçons ne sont pas hyper habitués à s'identifier à des héroïnes féminines. Donc voilà, hein, et pourtant, c'est sûrement possible parce que nous, on l'a fait.
Et donc, en tant que maman, puisque tu nous as expliqué que c'est le moment où tu deviens maman, que la BD revient comme... pas une urgence, puisque tu as dit qu'il n'y avait pas d'urgence, mais n'empêche que c'est arrivé à ce moment-là. En tant que maman, est-ce que tu t'interroges aussi sur cette question du genre ?
Ben c'est clair que c'est un sujet qui est présent et qui nous interroge en tant que parents, parce qu'on essaie de faire hyper gaffe justement à pas trop genrer. Et pourtant, en milieu rural, c'est pas forcément évident. On met souvent des voitures dans les mains des petits garçons et on leur dit souvent qu'ils ont les cheveux un petit peu trop longs. Mais non, nous, on essaie vraiment de faire... en fait, de pas faire de différence et de pas être là-dedans. Et bon, en même temps, je pense que mes enfants, ils ont la chance d'avoir des parents qui font... on fait tous les deux un peu tout. Moi, je fais de la taille de pierre. Leur papa, il peut faire de la couture. Enfin, en fait, voilà, il y a pas de, ils n'ont pas de préjugés justement
sur qui fait quoi à la maison.
Donc, mais c'est pas évident hein, parce que même sans le vouloir, on tombe quand même facilement.
Bien sûr, moi, c'est la reproduction des schémas sociaux, donc ouais. il faut s'en protéger, il faut en avoir conscience. Et puisque j'ai la chance d'avoir une pro de l'image, il y a une question qui me brûle les lèvres. Moi, j'ai l'impression qu'on recule dans notre société. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un peu vieilli et que je suis dans la nostalgie du 20e siècle et du post-68 où on a l'impression que tout s'ouvrait pour les femmes? Et là, moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une société où l'image a pris le dessus et qu'à travers cette domination de l'image, malheureusement, l'image de la femme n'en sort pas toujours gagnante. Mais alors, moi, c'est peut-être une lecture biaisée que j'ai. Toi, en tant que professionnelle, plus jeune que moi, comment tu regardes ce monde des images et la place de la femme là-dedans ?
Je pense que quand même, en tout cas sur Internet, y a l'image de la femme, elle se diversifie beaucoup. Justement parce que les représentations étaient un peu trop stéréotypées et malsaines. Mais après, moi, je suis pas très à l'aise avec ça parce que, je trouve qu'on est beaucoup justement dans la représentation, dans la revendication et... j'ai quand même l'impression qu'il y a, des femmes qui arrivent à faire ce qu'elles veulent faire et à répondre à leurs ambitions parce qu'elles sont plus dans l'action que dans la réflexion, même si c'est hyper important justement de mettre des mots.
On parle plus des femmes, on parle plus de leur trajectoire, on parle plus de leur liberté, on parle plus de leurs envies, on parle plus de leur propre rapport au corps, de leur propre intimité, de leur droit, tout simplement, à être comme elles ont envie d'être.
Ça commence, mais le problème, c'est que je pense. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on s'attarde sur sur ces représentations qui sont. En fait, c'est pas une fin en soi, quoi, de représenter les femmes différemment, telles qu'elles sont. C'est important, mais du coup, on est toujours dans la différenciation, en fait, et dans le. On est toujours en train de mettre les hommes et les femmes dans des catégories différentes. Et de vouloir à tout prix insister sur ces différences et de rester bloqué sur le fait de bien représenter une femme telle qu'elle est dans la réalité et un homme. En fait, moi j'ai peur que ça continue à garder ce petit fossé entre les deux alors qu'on pourrait aller au-delà.
C'est-à-dire que tant qu'on parlera de l'égalité femmes-hommes, tant qu'on parlera de la place des femmes, tant qu'on parlera des droits des femmes, c'est qu'on n'aura rien réglé, quoi.
Explorer juste ce que tout le monde a envie de faire sans s'attarder sur le genre et passer à autre chose, quoi.
On dit ça, quoi, pour 2021, Charlotte Mével. Écoute, si tu nous lisais un texte de Claire Prétéché pour clore cette émission.
Donc, c'est une petite citation d'un entretien pour... je ne sais plus quel journal, mais... ça m'a parlé, en fait. Je trouve que ça la représente bien je comprends. vous allez voir. Vous savez, je n'ai pas le quart d'une illusion sur les gens ni sur moi-même. Jamais rien n'est gratuit chez personne. Tous, nous sommes mus par le désir d'être aimés, de séduire, le désir de puissance ou l'argent. Il n'y a pas de trace de vertu, même chez les gentils qui sont gentils, parce que c'est le biais qu'ils ont trouvé. Mais pour moi, il n'y a là rien de péjoratif ni d'antipathique.
Bon, je trouve que ça fait écho à ce que tu viens de dire, hein, en réaction à la question du genre et des femmes. Et justement, je sens une pointe d'humour là pour finir cette émission. Ton troisième morceau, ton troisième choix musical s'appelle Boys. Tu l'as fait exprès ou quoi?
Non, c'était pas fait exprès. En plus, je me suis dit, est-ce que je mets celle-là? Parce que justement, ça parle de garçons, mais d'une certaine manière. Et puis, bon, après, c'est la musique de ce morceau-là que j'aime bien aussi. Donc.
Alors, Lizzo, c'est qui? C'est quoi?
C'est une artiste. Alors, je vais pas trop détailler parce qu'en fait, je la connais pas trop. Mais
c'est une femme.
Oui, c'est voilà. Une femme noire qui, pour le coup, rentre pas forcément dans les stéréotypes. Elle joue beaucoup avec son corps qui est très en rondeur et qui, je sais pas, elle fait des tailles XXL et elle, en tout cas, l'image qu'elle véhicule, c'est l'image de quelqu'un qui est très à l'aise dans son corps et qui joue beaucoup avec. Donc c'est assez agréable de la voir dans ses clips ou sur ses photos. Et c'est et puis elle a une énergie et une joie de vivre qui est qui se ressent beaucoup dans sa musique, quoi.
Eh bien, on se quitte avec Lizzo, Boys, un morceau de 2018. Et je te dis bon vent, Charlotte. Et j'espère te revoir bientôt avec tes prochains projets. Et puis surtout, je vais me plonger dans la rousseur, pointer du doigt, parce que tu m'as vraiment donné envie de découvrir ton travail.
Merci.
J'espère que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez. Alors, bon mois de mars. Et puis, à bientôt pour de prochaines rencontres. Et ces autoportraits de femmes d'ici et d'ailleurs qui se rejoignent dans les studios de Radio Brogenette à Pontivy. Kenavo!
Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, ay papi. Baby, I don't need you, just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys.
Baby, I don't need you.
I don't need
you. I just wanna freak you.
I want it, yeah.
I heard you a freak too.
That's right.
What's 2 + 2?
Lost your mind.